Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Parodian Rhapsody. Aujourd'hui, nous allons parler d'une série parodique française de Samuel Baudin et de Alexandre Philippe, diffusée depuis début 2013 sur la chaîne Orange Cinéma Series Max, Lazy Company. Notre culture française est aujourd'hui un véritable melting pot suite au processus de mondialisation de la culture. Si certains se plaignent de ce processus, soulignant la perte relative de la suprématie de la culture française sur son propre territoire, force est de constater que ces contestations viennent avant tout de l'idée qu'il existe bel et bien une culture française qui est encore bien vivante, et donc qu'il y a matière à conserver. Sous l'influence de De Gaulle dans les années 60, s'est développé autour de l'histoire de la France, très riche artistiquement, ce qu'on appelle l'exception culturelle française, qui ne fait plus l'unanimité aujourd'hui. Et pourtant, c'est grâce à l'intervention de l'État dans la politique culturelle du pays que notre industrie cinématographique est relativement préservée, là où, dans les autres pays européens, ça n'est plus le cas. La France restant la troisième productrice mondiale de cinéma au monde, derrière l'Inde et les États-Unis. Ces derniers sont cependant indubitablement très présents dans notre paysage culturel français, de par leur image de sauveur, et par la suite de leaders du monde, à la fois transmises par notre passé culturel, et par leur cinéma à eux. Dans ce contexte-ci, il est alors intéressant de s'intéresser à notre parodie d'aujourd'hui, parodie française de surcroît, Lazy Company. En effet, Lazy Company n'est pas n'importe quel type de parodie. Cela semble être au premier regard une parodie historique, qui traite de la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement du débarquement et de la libération de la France, et ce, du point de vue états-unien. Ce qui explique mon introduction, qui aurait pu vous paraître un peu décentrée par rapport à notre sujet de base. Ce statut de parodie historique est un statut très particulier, et un art foncièrement difficile. De fait, il est très important en premier lieu de ne pas confondre la parodie historique de la satire, caricature ou n'importe quelle œuvre humoristique traitant de l'histoire. Nous n'avons encore que très peu abordé les caractéristiques précises de la parodie, avant tout car je ne suis pas un thésard du cinéma, et secondement parce qu'il ne faudrait pas, je pense, s'attarder sur des détails techniques peu pertinents dans le cadre de notre analyse. Mais simplement, qu'est-ce qu'une parodie ? C'est une œuvre qui détourne les codes d'un sujet, d'un objet, voire même, pour les plus audacieux, de lui-même. Ne vous y trompez pas, je ne vous prends pas pour des idiots. Mais il me semblait nécessaire dans notre cas d'aujourd'hui de rappeler une définition au sens le plus simple de la parodie. Ainsi, si l'on prend des films comme La 7ème Compagnie, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut décemment pas dire que ce film est une parodie historique ? Car même si ce film détourne les codes de l'armée, il ne détourne pas les codes de l'histoire, de la période historique donnée, au niveau des acteurs, de la hiérarchie, de la chronologie, etc. La 7ème Compagnie est donc une parodie de l'armée. Nous allons donc voir ce qui fait que Lazy Company est, elle, une parodie historique, et donc, à travers son exemple, essayer de voir les caractéristiques nécessaires à l'établissement de ce genre. Puis nous essayerons de voir si Lazy Company est une parodie historique, ou si elle peut cacher d'autres formes de parodie à l'intérieur d'elle-même. A noter que nous n'allons parler que de la saison 1 dans cet épisode. Pour éviter le spoil notamment, je m'en voudrais vous gâcher la surprise au final. Premier élément qui me semble essentiel à caractériser dans le cadre de notre analyse, les personnages. Pourquoi ? Car ces derniers, rien que par le générique, sont mis en avant comme le centre de la série. A noter que nous n'allons parler tout de suite que du postulat de base, avec le niveau de connaissance que nous avons dans les premiers épisodes. Nous parlerons plus tard de l'évolution de ce postulat, qui mérite un intérêt particulier. De fait, la Lazy Company est composée de 4 soldats. Lee Junior Chester, appelé seulement Chester dans la série, joué par l'excellent Alban Lenoir, un habitué des productions jeunes et dynamiques, comme Hero Corp, et des parodies, notamment présentes dans une série que nous avons déjà traitée dans Parody and Rhapsody, Camelot. Jack Nils, ou simplement Nils, joué par le co-réalisateur de la série, Alexandre Philippe. Slice, joué par Benoît Moret. Et enfin, Michael Henry, ou simplement Henry, joué par Antoine Le Simple. Une série à 4 personnages principaux semble être un pari assez risqué, surtout que leurs histoires sont traitées toutes en même temps, tout en respectant la cohérence du lieu. Si certains sont divisés, on aura une scène pour chacun, et quand ils sont rassemblés, ils évoluent tous ensemble. Leur rôle est assez intéressant dans la série, puisqu'ils montrent, tout du moins au début de la série, tout l'aspect conventionnel qu'elle peut avoir. En effet, si on compare cette galerie aux autres œuvres humoristiques dans le contexte de l'armée durant la Seconde Guerre mondiale, on note rien de très spécial. Ces personnages arrivent dans cette guerre un peu comme un cheveu sur la soupe.
Oh merde.
Parachutés en pleine campagne française, ils ont tous des raisons différentes cependant de s'investir dans cette guerre. Pour Chester, la gloire et les honneurs. Pour Nils, c'est plus la beauté des Françaises, seule raison qu'il trouve étant dans cette guerre pour un pari. Au contraire de Henry, qui lui est là pour prouver à sa femme son courage. Quant à Slice, lui, il s'engage de l'armée dans le premier épisode pour éviter le retour à l'asile. Si ce dernier semble être plutôt spécial, pour le reste, les thématiques sont assez communes. Le rapport à l'amour en temps de guerre, le rapport aux valeurs, à la reconnaissance, tout ceci sont des ressorts narratifs assez connus afin de créer et de bien différencier les personnages, donc de développer ensuite des possibilités d'opposition et des moyens de créer des contrastes entre ce qu'ils attendent de cette guerre et au final la réalité, ce qui créera un décalage humoristique qui fera le sel de la série. Plus que cela, ce groupe est l'archétype même du groupe de n'importe quel film d'action hollywoodien, avec le romantique, le coureur de jupons, le mystérieux et le courageux. Ainsi, au niveau des personnages principaux, il sera difficile de faire plus conventionnel dans le cas d'une parodie. Et cela est tout à fait normal. En effet, la série se décrit elle-même comme être dans l'ombre de la Easy Company de Band of Brothers. Une série, elle, très sérieuse, sur le débarquement en Normandie, elle-même inspirée, d'après le créateur lui-même, Steven Spielberg, de films comme Il faut sauver le soldat Ryan, Saving Private Ryan en VO, qui incarne à lui seul les canons du genre. Ainsi, Easy Company est issue d'une longue lignée de films traitant du débarquement. Ces personnages principaux évoluent eux-mêmes dans un environnement des plus typiques du genre. Si une hiérarchie est présente à l'intérieur de la compagnie, elle est avant tout présente à l'intérieur du camp duquel ils font partie. Le général Paxton, interprété par Gilles, j'ai la même voix que Bernard Farcy, Bouillon, archétype du chef qui d'ailleurs ressemble beaucoup dans son comportement à Barbe Rouge, interprété justement par Bernard Farcy dans Mission Cléopâtre, il hurle, il n'est pas gentil, il fait son petit chef du grand classique, dont bien sûr Patty, son homme de main.
Autant vous dire qu'il est hors de question que les Allemands viennent à nouveau envahir notre territoire.
Toi t'es un guignol, toi t'es un guignol, toi t'es un guignol, toi t'es un guignol. Voilà, ça fait 4 guignols. D'ailleurs, vous êtes décoré de la médaille du guignol. J'invente des médailles, moi. Hop là.
La Lazy Company est d'ailleurs confrontée de fait à une autre compagnie, à laquelle tout réussit, mais qui sont des plus méchants des gentils, avec des têtes de méchants. Ils servent bien entendu à mettre en évidence la connerie, et à créer des confrontations avec la hiérarchie et de la concurrence entre les compagnies, une où rien ne réussit, ce qui crée au passage de l'empathie pour eux, ce qui tombe bien, puisqu'il s'agit des héros, et cette compagnie où tout réussit, qui ont le droit à tous les honneurs, à toutes les filles. Ils ont également d'autres alliés, comme la résistance française, uniquement composée de femmes, avec un accent légèrement ch'timi. Enfin, les gros méchants, les nazis, qui sont dans le pur style des méchants, à la fois sombres, mystérieux, et sans aucune forme de pitié. Mais si, c'est plus un archétype qui touche l'ensemble du cinéma, et aussi un archétype qui n'en est pas vraiment un, car nous présenter les nazis comme tels semble être assez malin, tant ils représentent dans ce monde réel le plus haut niveau de méchanceté sur l'échelle de la valeur de la cruauté. Ainsi, on constate que sur les premiers épisodes, sur les scènes d'exposition de la situation, les grosses ficelles sont apparentes dans la charnière de la maison. Comme si, dès les premiers épisodes, en faisant un effort d'imagination et d'analyse, on aurait pu deviner toute l'intrigue de la série. Ce n'est effectivement pas le cas, car en déterminant et en assumant le caractère archétypal de ces personnages, on peut ainsi partir sur une base saine, afin de développer le cœur de la parodie et de l'humour en général, puisque sans cette technique, tous les décalages par rapport à l'archétype n'auraient pas pu être faits. Et c'est là où nous allons vraiment pouvoir parler de parodie historique, car c'est effectivement à partir de ce postulat de base que la série va casser tous les codes qu'elle a elle-même créés au cours des épisodes d'exposition. Faisons une synthèse de ce qu'on a aux environs de l'épisode 3. Une compagnie de 4 soldats inexpérimentés et assez malchanceux, qui sont la risée du camp Neptune, et à qui rien ne réussit, au contraire de la compagnie rivale du camp, plutôt patibulaire, qui s'octroie le succès. Ce qui touche Chester, les femmes, ce qui touche à la fois Henry et Nils, etc. Aucun d'entre eux n'a si donc commencé à développer des outils afin d'accomplir leur ambition. À ce moment, si la série joue assez légèrement sur l'absurdité, ce que nous verrons après, c'est à partir du moment où elle devient un moteur du scénario que la série va vraiment devenir une parodie historique, et va aussi, par ailleurs, vraiment devenir intéressante. Car on ne peut pas faire une parodie historique sans folie. On peut faire une parodie culturelle tout en restant plutôt calme justement, comme Kaamelott. Mais Lazy Company se doit d'être fou. L'histoire avec un gros H est définie par des acteurs, des situations, des hiérarchies, par des lieux précis, par des dates précises. Ce qui fait que la 7ème compagnie n'est pas une parodie historique, c'est avant tout car les acteurs sont les mêmes, les hiérarchies sont les mêmes, les lieux sont les mêmes, et la chronologie est respectée. Or, Lazy Company en est une, car de ces points, elle ne respecte presque aucun. Seuls les lieux sont plutôt épargnés, quoiqu'en plein milieu de la série, on rencontre Hitler en train de cueillir des champignons en pleine campagne française, à ce qu'on imagine être l'été 44. On a de quoi avoir des doutes. Et en ça, la série possède vraiment de formidables trouvailles. Un aviateur japonais perdu, un cuisinier allemand joué avec un accent belge par Thomas VDB, des nazis fanatiques, des amours totalement absurdes, les exemples sont tellement nombreux, et ceci va de manière croissante jusqu'à la fin de la série où les personnages n'ont même plus évolué, ils ont dégénéré. Je ne vais pas en dire plus, et encore moins sur la saison 2, que je ne vais aucunement révéler ni traiter ici, étant la continuité de la saison 1. Comment se traduit cette folie ? Eh bien, elle arrive à partir du moment où l'on détruit telle ou telle barrière que la série semblait s'imposer au début. On remarque celle-ci, par exemple, à l'intérieur de l'évolution de la structure narrative. La série semble, au tout début, marquer un des temps les plus conventionnels, voire antiques. On sent même que ce rythme est des plus classiques, et n'est pas fait pour durer, ce qui va poser des problèmes qualitatifs. En effet, les premiers épisodes ont vraiment, au niveau du scénario, un aspect assez peu léché, voire vide. La structure est simple. Arrivée chez le général, mission, gag entraînant le ratage, retour chez le chef. Voici le rythme tout à fait classique de ce qu'on pourrait imaginer être une série humoristique sur l'armée.
Comme si j'avais pas autre chose à foutre que tirer les conneries de mes hommes. Et des officiers en plus. Parce que je sais pas si vous savez, mais c'est la guerre ici. On n'est pas là pour faire mumus avec des pistolets. Vous êtes la honte de ce régiment. Non, vous êtes pas la honte. Vous êtes des cons, c'est ça. Des gros cons. Vous êtes un con. Vous êtes un con. Et vous êtes un con. La ferme, Lucky Luke. On aurait eu l'air de quoi si vous l'aviez abattu. On aurait eu l'air de con. Voilà. Excuse, mon général. Vos excuses, vous pouvez vous les mettre. Et quand je dis vous les mettre, je parle du cul. Alors je vous suspends pendant 10 jours. Et vous, pendant 2 semaines, travaux de surveillance des tranchées. Ça vous apprendra à avoir le sens de l'humour.
À vos ordres.
Bien sûr, à mes ordres, idiot. C'est moi qui commande ici. Et vous, le faux Hitler, vous allez passer dans mon bureau et me balancer les infos fissards. C'est où, votre bureau? C'est
là. Mais ce rythme va dégénérer par plusieurs choses. Et assez progressivement. On va passer d'un ratage total, à un semi-succès, puis à un succès complet, pour un retournement total des situations à l'intérieur de la hiérarchie du camp, puis de l'ensemble de la chronologie et de la hiérarchie à l'intérieur même de la Seconde Guerre mondiale. La folie est donc un art qui doit être parfaitement maîtrisé. On ne peut pas avoir une série totalement folle tout le temps. Il faut en premier lieu définir les codes, desquels se détachera la folie, car il faut d'abord définir les règles de la logique interne de la série avant de les casser. Puis cette cassure doit se faire de manière progressive, que tout reste dans la continuité. En réussissant ces deux points, la série exécute avec brio ce processus, ce qui donne au final à la série une certaine dose de fraîcheur. Malgré tout, je trouve que l'hypocrisie de départ est parfois un peu trop visible. Ce que j'entends par hypocrisie de départ, c'est l'établissement des règles qui devront ensuite être cassées. Les scénaristes ne croient pas en ces règles, et je trouve que cela se voit un peu trop, ce qui réduit l'impact du retournement progressif. Ce manque d'assurance vis-à-vis de la tromperie envers les spectateurs s'affiche notamment dans son humour, qui lui, dès le départ, nous indique la tournure de la série. Lazy Company est avant tout une série humoristique. Bon, certes, sur le thème de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et surtout en y incluant des nazis, ce que ne faisait pas La Grande Vadrouille par exemple. Cela semble être plutôt dur et risqué. Il va donc être important de bien savoir l'analyser. Lazy Company développe son humour avant tout à travers des gags. Afin de minimiser les spoils, je vais me contenter de ne parler que d'un exemple qui est pour moi le plus révélateur. Chester pose son pied sur une mine antipersonnelle pour la première fois de la série à l'épisode 2, ce qui fait de lui la risée du camp, ce qui correspond à un comique de situation puisque la dangerosité de la mine est développée, ainsi que la difficulté de la sortie de cette dite situation. Une fois rentré au camp, on pousse le vice encore plus loin en mettant une mine dans la cantine du camp. L'absurdité de la scène fait de ce moment encore un comique de situation, même si le comique de répétition commence à s'installer un petit peu. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où l'absurdité prend des proportions telles qu'une fois un parachutage effectué, Chester tombe directement sur deux mines, le privant dès l'atterrissage de toute mobilité. À travers cet exemple, on remarque toute la force de la série au niveau de l'humour. Ce n'est pas forcément une question de complicité des gags de base, mais plus de la manière dont elles sont répétées, et je dirais même plus accentuées, jusqu'à l'apothéose d'absurdité. C'est tout un univers à part que la série se crée. En effet, aucune règle n'est respectée, et je pense que cela est nécessaire pour que la parodie fonctionne. Tous les effets dramatiques sont au final coupés par l'humour, par une dose d'absurdité, que cela soit par rapport au grand méchant, au grand chef, au grand combat. La série ne prend rien au sérieux, et c'est cela qui fait sa force. Elle ne prend rien au sérieux, jusqu'à en devenir même presque un peu cartoonesque. Je m'explique. Plus les codes se cassent, plus on a vraiment l'impression que les décisions et les actions prises n'auront aucune conséquence, ce qui est à double tranchant. Lorsque la Lazy tient un siège afin de défendre les plans qu'elle a trouvés, Henry perd son pouce. Là où n'importe quelle série en aurait fait un drame, on a l'impression que cette dernière passe au-dessus de manière très succincte, comme si au final, ça n'avait pas été très intéressant. D'une manière générale, l'humour est très omniprésent dans la série et passe le plus souvent par-dessus tout le reste, ce qui donne une ambiance très particulière. Aucun personnage n'est vraiment sérieux, et dès qu'il y a un tout petit peu de sérieux, il est forcément rattrapé dans les 10 secondes par un effet humoristique.
Je t'en prie, je dois l'arrêter.
C'est fini. C'est fini.
Ces situations, en plus d'être absurdes, créent une opposition supplémentaire. Il est difficile de caractériser clairement les limites au niveau des personnages, au niveau de l'avancement du scénario, de ce mélange entre le cartoon et le dramatisme. Il est important de préciser quelque chose sur la série. Elle a vraiment très peu de moyens. Derrière une esthétique vraiment léchée, on a vraiment un tout petit budget pour faire ces 10 épisodes de 22 minutes. Pour raconter le plus de choses en un minimum d'argent, la série pratique une technique assez commune. Elle fait des plans très riches. Et cela pour conséquence un certain fouillis dans les idées, dans les indices que l'on peut capter dans la série. Ainsi, on peut difficilement définir les règles d'opposition entre le drama et le cartoon. Certains aspects dramatiques ne sont pas utilisés comme tels, certains comme dramatiques finissent détournés, d'autres commencent, on va dire de manière plus cartoon, pour finir dans le domaine du un peu plus sérieux, comme la révélation sur Slice ou ce qui se passe avec le personnage de Henry. Ce qui semble être un gros bordel est, en fait, effectivement le cas. Mais c'est un bordel maîtrisé. En effet, le récit de la parodie reste avant tout cohérent avec lui-même, et c'est en cela que la folie reste acceptable, et en reste efficace. C'est que dans l'univers de Bodin et Philippe Onkray, on sait que tout peut rêver, mais pour autant, on reste surpris par leurs idées. Mais cette folie reste pour moi à relativiser. Malgré le fait que l'on dise depuis le début de cet épisode que cette série est une série qui ne respecte aucun code au niveau historique, au niveau de ce à quoi l'on s'attend, il reste un élément qui est encore assez présent, c'est la question du message moral. En effet, c'est l'un des éléments qui tend à me faire dire que la série ne s'assume pas trop comme une série parodique. Sur la page OCS, la chaîne qui diffuse la série, de Lazy Company, il n'est jamais mentionné l'idée d'une parodie, mais est plutôt mise en avant le double côté aventure-humour de la série. Or, l'aspect aventure me fait un peu tiquer, sauf pour l'aspect moral. L'idée, c'est qu'en effet, on part de personnages qui ne sont pas du tout héroïques pour un sou, et qui, à travers cette guerre, ont des choses à gagner ou à perdre. En général, l'aspect moral vient s'imposer à ces personnages en ajoutant aux choses à gagner des choses à apprendre. Ils vont apprendre en essayant, en se trompant, puis en réussissant. Et Lazy Company est... eh bien complètement dans ce registre. En effet, des nuls deviennent des héros. Et chacun apprend quelque chose. Henry et Nils apprennent à aimer. Le premier, un grand timide, apprend à la fois à gérer sa timidité, mais aussi à contrôler son amour. Nils, lui, apprend à ne pas considérer la relation amoureuse comme une relation unilatérale. Chester, enfin, apprend que la réussite n'est pas tout, et en apprenant ça, obtient la réussite qu'il voulait. Cet aspect moral fait partie de ces éléments peu étonnants dans une série qui semble assez peu conventionnelle. Surtout que ce dernier n'est pas cassé dans la série, ni même mentionné. On aurait pu avoir par exemple des cassages du quatrième mur par rapport à cela, mais non, donc on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il y a cet aspect moral en plein milieu d'une parodie historique. Et pourtant, tout élément, surtout aussi présent, doit être expliqué dans une parodie ou n'importe quelle œuvre d'ailleurs. Ce n'est donc pas une parodie historique. Mais alors, oh mon dieu, qu'est-ce que ça peut bien être d'autre alors? Ah, pas de panique. Nous allons observer d'autres éléments qui vont nous permettre de le déduire. Nous avons donc un premier indice, le générique. Le générique de Lazy Company est un des éléments les plus importants pour comprendre cette parodie. Et ce n'est pas un hasard. En effet, dans le cas d'une série télé, le générique est en quelque sorte la vitrine du produit. Il doit se montrer sous son meilleur angle à travers une augmentation du rapport travail-temps sur cette séquence, tout en symbolisant à la fois ses unités de lieu, de temps et les protagonistes principaux. C'est aussi une vitrine dans le sens le plus commercial du terme, puisque c'est ici que l'on mentionne les producteurs, réalisateurs ou acteurs à la fois par respect pour leur travail, mais aussi car cela peut encourager un spectateur à rester devant la série s'il y voit un nom connu. Nous n'allons pas ici nous attarder sur ce point pour nous concentrer sur la manière dont nous présente le lieu, le temps et surtout les personnages. En effet, car dans le cadre d'une parodie historique, les deux premiers points sont les plus simples à montrer, chacun possédant, sur cette période, des connaissances historiques. À travers l'alternance de symboles connus de la domination européenne par les nazis et de l'US Army, ces deux points sont réglés. C'est au niveau des personnages que le tout devient intéressant. En effet, la série nous surprend, tout du moins au premier visionnage, à l'aide d'une musique qui est digne du générique de Le Bon, La Brute et Le Truand. Composée par Jean-Sébastien Vermal aka Jolty Beats, c'est chaud à prononcer comme nom. Cette dernière reprend les canons de la musique de Western Spaghetti. Selon le musicien lui-même, deux aspirations majeures sont à noter et à différencier à l'intérieur de ce générique. Les grandes cavalcades présentes dans le thème de The Wild Horde, du film Mon nom est personne de Sergio Leone, qui symbolise, en mon sens, l'arrivée des Américains héroïques pour sauver l'Europe des mains des nazis. Et en seconde partie, une reprise des chants et des trompettes plus typiques, celle du mythique thème de Le Bon, La Brute et Le Truand. L'habillage, quant à lui, reprend à la fois l'apparition épique des personnages principaux, qui sera d'ailleurs reprise dans la continuité lors de l'apparition première des personnages secondaires, et ce, tout en le mélangeant à l'environnement des militaires et au contexte historique. Le débarquement continue en fond, et c'est là où les personnages interviennent. Sont évoqués rapidement leurs liens avec l'apparition en fond des personnages hors principaux, auxquels ils seront affiliés. On a donc un mélange des deux univers au niveau esthétique, dont la plus évidente des preuves se trouve au niveau de la typographie, elle aussi typique de l'ambiance Spaghetti. Vous l'aurez compris, il y a ici un point à élucider. Puisqu'en effet, je doute que le lien entre le Western Spaghetti et une série parodique sur le débarquement de Normandie soit clair. Plusieurs explications sont possibles. La première est assez simple, elle consiste en l'idée qu'il s'agirait de l'expression de la parodie. En effet, les personnages ne sont pas des héros de prime abord, comme nous avons pu le voir durant cette première partie d'émission. Ainsi, nous exposer dès le début une telle mise en valeur de ces personnages semble être un bon moyen pour nous tromper. C'est effectivement le rôle du générique lors du premier épisode. Mais une fois celui-ci passé, la tromperie est elle aussi dissipée. Or, un générique est fait pour être pertinent tout au long d'une série, ou au moins sur tout au long de sa saison. Il doit à la fois tout et rien révéler. C'est pour cela que j'ai mis avant tout sur une seconde explication qui va me servir de toile de fond pour sérieusement relativiser le point de vue développé sur la série pour l'instant. Comme dit précédemment, le Western Spaghetti est l'expression de l'héroïsme, et même l'une de ses plus pures expressions. La preuve se trouve dans l'épisode du paintball de Community, qui s'amuse justement du côté super-héroïque, qui évoque le Western pour nous plonger dans une ambiance totalement différente de celle usuelle dans cette série. Mais le Western Spaghetti est aussi l'expression de l'héroïsme au sens cinématographique du terme, et non réel. C'est une certaine idée du héros qui est véhiculée par ces films. Or, le générique de Lazy Company n'est pas l'expression d'une tromperie par rapport à un éventuel héroïsme des protagonistes principaux, mais l'expression de ce qu'est réellement la série, soit une parodie de l'approche cinématographique du débarquement et de la Seconde Guerre mondiale par Hollywood et dans notre culture actuelle. On note donc une omniprésence des références culturelles, qui tendrait à dire que la série est plus une parodie de notre vision issue de celle d'Hollywood, du débarquement et de la guerre. Ces références sont soit explicites, soit implicites, mais sont effectivement très nombreuses. Au début de l'épisode, nous avons remarqué que la série, rien que dans son titre, était déjà dérivée de la Easy Company de Band of Brothers. Cette série est purement dramatique sur la guerre et sert de base à la série. Mais à part le nom au final, on ne sent pas vraiment son influence. car la série est plus en général basée sur tous les films, toutes les séries, qui parlent de l'influence américaine lors de la Seconde Guerre mondiale, voire même de toutes les guerres, à commencer par Saving Private Ryan. C'est ainsi qu'il faut essayer de comprendre pourquoi il y a une telle richesse culturelle sur la période. Pour les Américains, le débarquement est une manière de rappeler à tout le monde la légitimité de leur influence dans la gouvernance mondiale, et par ce biais, de leur influence dans l'ensemble du paysage culturel de tous les pays. Car c'est avant tout parce qu'ils ont su profiter de la guerre pour augmenter très fortement leur production de richesses que désormais ils ont une longueur d'avance sur le monde. Ça et aussi le fait qu'ils étaient déjà bien partis et qu'ils ont su relativement conserver cette avance. Parler de cette guerre pour les États-Unis, c'est au final rappeler leur rôle de sauveur. Et c'est là où on peut reprendre notre idée de morale. La morale est un élément qui ne doit pas être pris au sérieux dans Lazy Company. Avant tout car cette morale est délivrée dans le cadre d'Américains joués par des Français qui parlent en français. Communément dans ce genre de film-série qui traite de la guerre de manière sérieuse, en termes dramatiques j'entends bien, la morale est là pour rappeler que la guerre est une leçon pour l'homme. Donc, si l'on reprend les éléments énoncés précédemment, que la Seconde Guerre mondiale, ici, doit bel et bien nous apprendre et nous rappeler qu'au final, c'est les États-Unis qui sont les plus forts, les plus moraux, etc. Cette morale, qui arrive ici comme un cheveu sur la soupe, est là pour remettre ce principe à sa place. La guerre n'est absolument pas un théâtre pour ce genre de choses. Et je pense que c'est de ça dont la série parle, à travers sa folie. En effet, les blockbusters hollywoodiens sont des œuvres qui sont très dogmatiques, très manichéennes de plus. Et il semble en effet de mauvais goût, de mauvais ton, de l'appliquer à ce domaine précis qu'est la guerre. On a par exemple les références au monde des super-héros, à travers le formateur de la Lazy, le Patriote. Ce dernier est une version un peu féminisée de Captain America.
Chesty, mon grand, tu devrais pas...
Tu pas votre grand et arrêter de mettre des I à la fin de mon nom.
Pardon, c'est affectif. Je vous aime bien, tous les quatre. Vous êtes des bons gars. Une chouette fille.
J'en ai marre. Je donne tout. Résultat, je me fais former par un mec qui ressemble à une fille. Elle est pourrie, cette guerre.
Qui sont, par exemple, ceux qui montrent le mieux le soft power états-unien. Les comics étant, à l'origine, faits pour cela. Et notamment Captain America. De même que la référence au western au générique, si cela peut être interprété comme une tromperie au niveau de l'invitation à l'héroïsme que l'imaginaire autour du monde des westerns transmet, au final, on peut aussi remarquer que ce même héroïsme est très malvenu si on se place du point de vue historique. Au niveau éthique, ces cowboys n'ont rien de héros respectable, puisqu'ils sont, au même titre que les nazis, responsables d'un génocide de plusieurs millions d'humains, ici d'Amérindiens. Mettre en avant la guerre comme un facteur d'héroïsme est au final un parti pris assez discutable, puisque ce genre d'événement ne doit surtout pas faire rêver, bien au contraire. Mais, dans le cas des États-Unis, cela va même plus loin puisque ces derniers l'utilisent comme véritable arme idéologique pour appuyer leur suprématie au niveau culturel. On a également une deuxième critique, à un niveau supérieur cette fois, c'est la critique de ce qu'on pourrait appeler une certaine vision de la guerre. En effet, dans ces films, on a tout dramatisé, on a tout narré, de telle manière à, soi-disant, rendre cela réaliste. Alors qu'au final, dans la vraie guerre, je doute que, quand ton pote mourait, tu venais recueillir ses derniers mots dans tes bras, etc. Car la guerre, c'est aussi, avant tout, chacun pour sa peau, la peur de la mort étant l'un des plus forts sentiments. Le rôle de la parodie est de prendre en général le contre-pied de ceci. Et l'équipe de Lazy Company l'a bien compris. Dans l'épisode 1, Overlord, Nils a le réflexe de prendre les plaques du soldat qu'il laisse à terre.
La mission. Il faut accomplir la mission. Laissez-moi ici, je vais vous ralentir. Allez chercher ce foutu plan, les alliés comptent sur vous.
À vos ordres, Major.
Qu'est-ce que tu fais?
Je prends vos plaques.
Mais je suis pas mort.
Si on vous laisse là, mon ami...
Mais j'en ai rien à foutre de ton avis. Dépêchez-vous. C'est pas comme si vous étiez en mission capitale.
Ce réflexe est un réflexe d'un soldat qui serait gavé de tout cet imaginaire de film de guerre, alors que le soldat à terre, lui, connaît la réalité du terrain, et casse, avec ceux du spectateur, tout ce cérémonial, qui n'aura effectivement pas sa place dans une vraie guerre, créant la parodie. De même que l'idée de rajouter de l'humour partout, même faire un épisode en chanson. Toutes ces idées, tous ces cassages du dramatisme sont autant de pics envoyés au traitement lui, au contraire, trop épique de la guerre, qui en deviendrait presque un moyen pour s'affirmer en tant qu'homme. Ce qui explique d'ailleurs les raisons d'arriver dans cette guerre des quatre de la Lazy Company. Un troisième niveau de parodie se trouve au niveau du traitement des nazis. En effet, on ne peut pas dire explicitement que la Lazy Company prend le contre-pied de la manière dont ils sont traités à Hollywood. Ils ne disent pas que les nazis sont géniaux. La parodie est plus maligne que ça. En effet, on remarque que même Hollywood, les nazis ont un côté très sérieux, très dur, très froid, voire même épique. Quand on prend la scène d'entrée de Inglourious Basterds, le nazi n'est pas forcément enviable, mais il n'est pas non plus ridiculisé. Il paraît juste froid, dur, un peu comme des profs sadiques. On peut considérer elle aussi que ce n'est pas une bonne manière de représenter les nazis. Le fait est que cela n'est pas une question de méchanceté, mais de fanatisme. Pour un nazi, dans sa logique de nazi, il agit pour le bien. Or, dans la vision unilatérale de Hollywood, un nazi ne peut que faire le mal, puisqu'on ne prend pas en compte sa logique. Dans Lazy Company, je trouve la manière dont ils sont joués bien plus intéressante, car l'on voit bien ce qui pour moi les caractérise avant tout, leur fanatisme. En effet, un nazi c'est avant tout un fanatique, quelqu'un qui est totalement dévoué en une idéologie, qui se trouve être totalement dégueulasse, puisque c'est l'idéologie de la haine envers certaines communautés, et même en général de toute l'humanité. Ainsi, en s'affranchissant de toutes ces règles, Lazy Company nous permet par exemple d'assister à des choses inédites, comme une histoire d'amour entre Nils et la chef nazie, cette dernière montrant de manière assez nouvelle l'inhumanité du fanatisme, qui peut même mener jusqu'à la folie, comme est dépeint Hitler dans la série. De fait, le personnage est vraiment ridicule dans cette dernière, dans ses tics, dans sa manière de parler. Je pense qu'il faut voir la série pour réellement comprendre. Mais je vous ai quand même sélectionné un passage qui me semble être le plus révélateur de cette parodie des nazis vue par Hollywood.
Vous comprenez que c'est mal ce que vous faites ?
Je fais quoi ?
Les invasions, la guerre, le Reich, tout ça, c'est pas bien. Faut pas aller tuer des gens tranquilles comme ça juste pour le pouvoir, vous comprenez ? Faut pas le faire. Non mais regardez-moi, j'essaie de vous expliquer. Là.
Tu dis ça parce que tu es jaloux ?
Pas du tout. Persécuter un peuple tout entier par exemple. C'est méchant. Surtout quand il vous a rien fait. C'est un peu normal que ça fâche des gens.
Tu dis de la merde. Mes idées sont géniales. Je suis génial, c'est tout. Mon pays m'adore. Et tous ceux qui pensent différent, on zigouille.
Mais justement, c'est ça que j'essaie de vous expliquer. C'est que c'est mal. Zigouiller, c'est mal.
C'est ton coiffeur qui est mal. T'as vu ta tête? Un homme de jardin, va. Et puis, c'est quoi, là, ces gros oursis, là? On dirait un singe.
Non, mais calmez-vous, Adam.
Nein. Je suis très calme. Je suis réputé pour mon calme. Je suis un génie du pouvoir, moi, un visionnaire.
Un quatrième niveau de parodie est sur le traitement des autres nationalités par les Américains. En effet, les personnages du cuisinier, un Allemand non-nazi, et celui de l'aviateur japonais sont les témoins de la parodie, qui est faite du traitement des autres nations par Hollywood. En effet, en mettant les États-Unis au centre, Hollywood en profite pour montrer la plupart du temps une image imparfaite des autres pays dans cette guerre. Les amalgames sont donc eux aussi pris à contre-pied. En effet, on note par exemple ce fameux passage où l'Allemand, qui cherche à se faire intégrer au camp, leur présente son plat.
Dans ces spécialités de Hambourg, le hamburger.
Bon, déjà, visuellement, c'est bon.
Ouais, là, on est dans l'énoncé, quoi. Bon, maintenant, faut goûter.
Ils sont bien, le cracon de picots. Il y a une vraie histoire dans ce plat.
Et au niveau de l'assaisonnement, c'est super bon. On va enfin arrêter de manger la merde de Chuck.
Bah, vous pouvez rien dire de mon filet mignon.
Il avait rien de mignon, ton filet. J'ai failli avaler ma langue. Helmut, avec ça, tu viens de rendre plus de services à notre armée que la moitié de nos soldats. Je te nomme chef des cuisines de Neptune. Et juste pour info, j'adore les lasagnes.
Ouais, ça par contre va falloir.
En donnant une parenté allemande à un produit typique des États-Unis, Lazy Company prend donc l'inverse de ce que pratique Hollywood en général. Au lieu de montrer les États-Uniens comme seuls parents de la victoire par exemple, sans prendre en compte les autres pays, ils prennent quelque chose dont ils sont effectivement les parents, le hamburger, mais en lui donnant une autre parenté. De même que pour l'aviateur, qui lui est japonais, référence assez cachée au kamikaze. On ne peut s'empêcher de penser quelques secondes au film Pearl Harbor quand on le voit. L'idée d'en faire un allié de la Lazy et même un sauveur montre qu'encore une fois, on a tort de mettre tous les gens d'un peuple dans le même sac. Si cette idée semble ridicule et un peu cucu, la série a au moins le mérite de ne jamais l'exprimer, laissant juste le côté absurde de retrouver un aviateur japonais perdu en plein milieu de la campagne française. Montrons bien que ce rapport à la morale est un rapport purement parodique, car dans le cas contraire, cet aviateur japonais aura pu être utilisé comme un vecteur de mixité sociale. Un cinquième et avant-dernier niveau de parodie se trouve dans le traitement d'un pays que j'ai décidé de mettre à part, la France. En effet, les Français sont présents dans la série à travers la Révolution. Composée uniquement de filles à fort accent, elle est intéressante à étudier, je pense, pour deux raisons particulières. L'idée de n'en faire que des femmes s'adresse, je pense, plus aux Français. En effet, dans notre approche de la résistance, nous avons tendance à les catégoriser. La résistance gaulliste, celle communiste. Mais on oublie, je pense, le plus souvent de dire simplement que la résistance, c'est avant tout une résistance contre Vichy et contre le nazisme, et non une résistance spécialement gaulliste ou communiste. Ainsi, à travers cette parodie, on met en avant cette idée assez ridicule, en la poussant au maximum. Ne faire de la résistance qu'un groupe de personnes, des femmes, mais aussi prendre le groupe qui, dans la société paternaliste de l'époque, semblait le moins mis en avant comme un groupe vecteur de résistance. De même que le rôle des femmes dans les usines durant la Première Guerre mondiale. Secondement, concernant leur accent, je pense qu'il est plus, lui, une critique adressée à la manière dont on considérait les Françaises par les États-Unis. En effet, encore une fois, c'est par les personnages principaux, rappel du point de vue états-unien surtout, que nous le comprenons. Le personnage de Nils, cherchant dans cette guerre avant tout à séduire des Françaises au bar. Quelle déconvenue pour lui, lorsqu'il se rend compte de la réalité sur le terrain. Ainsi, en les faisant particulièrement différentes que celles dans l'imaginaire de nos amis transatlantiques, on note encore une fois un décalage parodique, qui est plutôt bien trouvé. Enfin, un septième et dernier niveau de parodie, et je pense visible, c'est celui du traitement des autres personnages principaux, historiquement, de cette guerre. Que cela soit Churchill ou De Gaulle. Ces derniers sont des caricatures de ce que l'on dépeint d'eux en général. Pour Churchill, son flegme anglais se traduit par beaucoup d'humour, alors que pourtant, le monde est en guerre, et que son pays est censé subir un siège qui ne devrait pas lui permettre d'avoir autant l'esprit à l'humour. Quant à De Gaulle, eh bien, je voulais juger par cet extrait.
Alors là, je dois bien reconnaître que je suis impressionné.
Ça vous embouche un coin, sans déconner. Vous reprendrez bien un peu de bouillabaisse?
Bien volontiers. J'en reprendrai.
Adolphe, vous bouffez rien?
Comment voulez-vous que je mange? Je suis saucissonné comme un saucisson, là. Ça fait qu'à me détacher.
L'hospitalité légendaire de la France nous oblige à détacher ce bain.
Que peut-on dire de ce traitement des personnages historiques? Là encore, c'est un contre-pied que la série prend avec notre culture, mais qui est basé là sur des fondements véritables. Le côté un peu vieille France de De Gaulle, le flegme anglais de Churchill sont des vérités avérées par les deux chefs d'État, mais la série pousse ici ces vérités jusqu'à la caricature, créant ainsi beaucoup de ridicule autour de ces chefs, qui n'ont ainsi plus l'étoffe de héros que leur rang semble indiquer, présenté dans les livres comme les sauveurs. Ainsi, en utilisant l'opinion politique, en l'accentuant et en la retournant, Lazy Company réalise un détournement très intelligent de ses chefs, qui incarnent trop souvent l'ensemble d'une guerre, ce qui non seulement nous fait oublier les soldats qui exécutent les ordres, et, par la même occasion, la misère humaine et l'horreur qui se cachent derrière ces ordres, ce qui permet de rendre à tous l'histoire bien plus agréable à lire ou à entendre. Ainsi, comme vous avez bien pu le voir, Lazy Company n'est pas une série qui manque d'idées, bien au contraire. Parodie historique, parodie culturelle, et mélange des deux, il est assez difficile de vraiment caractériser la série. Tantôt elle est plutôt conventionnelle, tantôt elle fait preuve d'une folie assez inédite dans le PAF. N'assumant pas ses passages dramatiques, elle donne au final l'impression d'une série un peu trop cartoonesque, pour qu'on puisse vraiment y prêter de l'importance et du sérieux. Même la présence de scènes un peu gore, appuyée par une réalisation très riche au niveau des cadres, ne semble pas contrebalancer avec le manque de relief scénaristique de la série, qui gagnerait, je pense, à devenir un peu plus noire, tout en s'affranchissant des derniers codes qu'elle respecte, sûrement de par un manque d'expérience des réalisateurs et de l'équipe, et en définissant clairement les éléments parodiques des autres, ne laissant pas le spectateur dans le besoin d'interprétation, comme par exemple avec cette omniprésence de la morale. L'idée d'une critique du traitement américain du point de vue de ces derniers, mais joué et écrit par des Français, reste cependant pour moi quelque chose à voir, car ces idées nouvelles apportent un peu de fraîcheur, là où, si en effet notre production cinématographique est préservée, elles semblent être pour une grande partie en service gériatrie, voire déjà sous respiration artificielle. Ainsi, malgré les imperfections, cela fait toujours plaisir de voir qu'en France, certains tentent toujours. Voilà, j'espère que ce troisième épisode de Parodian Rhapsody vous aura plu. Comme vous l'avez remarqué, Poirlet n'était pas disponible pour cet épisode. Il y aura effectivement un épisode donc cet été, pendant la période des vacances, qui sera sûrement un peu différent, je vais essayer de tenter de nouvelles choses. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour l'accueil sur cette première mi-saison qu'a reçu le podcast, les nombreux retours que j'ai reçus, des personnes à la fois qui ont un esprit critique très avisé, qui m'ont permis d'avoir des conseils assez intéressants dans le cadre de l'amélioration de ce qui est pour moi mon premier podcast. Donc merci à vous, merci à la production de Radio Kawa. Je vous encourage à voir tous les autres podcasts de à la fois Synops Live, qui est un diffuseur affilié, mais également simplement de Radio Kawa, qui sont des gens tout à fait sympathiques. Bonne journée à vous.